Dans le dossier du livre aux jeux vidéo, nous avons abordé le délicat processus de transition et de transmutation traduisant le passage d'un univers romanesque à une adaptation vidéoludique, prenant pour exemple deux grandes sagas de science-fiction et de fantasy. Mais qu'en est-il de cet autre procédé tout aussi complexe qu'est la novélisation à partir de l'univers d'un jeu vidéo? On dit souvent que ce sont de mauvais bouquins, mais on oublie aussi que l'on juge vite un produit créé comme un dérivé, sans tenir compte de ce qu'il est, une œuvre à part entière. Découvrons ensemble ce secteur, en espérant que cela attise votre curiosité. Ce qui suit est extrait du dossier « La novélisation des jeux vidéo », que vous trouverez dans le magazine numéro 9. En co-écrivant cette novélisation, les deux auteurs de Lara Croft et les 10 000 immortels devaient à la fois marquer la transition entre deux productions, le Tomb Raider de 2013 et Rise of the Tomb Raider, en préparation à l'époque donc pas de spoil. L'histoire se situe juste après le retour de Lara, encore étudiante, du Yamate, une île mythique au large du Japon dans laquelle se déroule l'action de Tomb Raider, le reboot de 2013. Le premier volet qui allait faire prendre à l'héroïne vedette du monde vidéoludique un tout nouveau départ est un excellent survival. Lara, qui a environ 18 ans, part en expédition avec une équipe de chercheurs pour le Yamate, le royaume insulaire perdu de la mythique reine solaire Himiko, où l'équipe fait naufrage lorsque le bateau est frappé par un éclair surnaturel. Lara y perd ses amis, pris par une secte de survivants s'autoproclamant Solari, des adeptes du culte de Himiko, et cherchant à obtenir que la cruelle déesse leur accorde le départ de l'île maudite, son esprit endormi contrôlant les orages et attaquant le moindre navire ou avion approchant. Sam, la meilleure amie de Lara, sera avec elle et trois autres coéquipiers, les seuls à pouvoir repartir, notre aventurière ayant réussi à mater l'esprit de Himiko et à se débarrasser du chef des Solari, ou du moins, le croit-elle. Le roman d'Abnett et Vincent se situe entre cet épisode fondateur du reboot de Crystal Dynamics, Nix Software et Feral Interactive en 2013, et Rise of Tomb Raider, 2015. Rentrée endeuillée du Yamate, Lara essaie de reprendre une vie normale, fortement aidée de médicaments pour calmer ses crises d'anxiété. Mais le destin s'acharnant toujours copieusement, elle reçoit un appel de l'hôpital lui annonçant que sa meilleure amie, elle aussi revenue du Yamate, Samantha Nishimura a fait une curieuse overdose. Réalisant que ce n'est pas Sam qui est à l'hôpital, mais la déesse métampsychique Himiko, Lara doit trouver un moyen de libérer l'âme de son amie. De retour au manoir Croft, la jeune femme cherche dans le journal de bord de son père des informations. À cause surnaturelle, remède surnaturel. Comme dans l'ensemble des jeux, l'objectif est de trouver un artefact. Ici, c'est la mythique toison d'or, volée par Jason en Colchide, laquelle aurait des propriétés spirituelles curatives. Les auteurs procèdent à une démythification, en menant l'héroïne sur les pistes d'une toute autre explication qui n'a rien à voir avec Jason, telle que le dépeint la mythologie, tout en confirmant l'existence d'un pouvoir capable de rendre immortel, ou simplement fou. Comme dans les jeux, la quête du trésor entraîne la convoitise d'ennemis bien humains qui viennent s'ajouter aux ennemis surnaturels. Ici, les fameux 10 000 immortels sont une organisation mafieuse dirigée par un certain Arès, et qui s'en prennent à notre Lara, cette dernière n'étant encore qu'une aventurière en devenir, qui se sert surtout de son don d'observation et de son entraînement sportif pour se tirer de pétrin, comme dans les jeux, survenant dans plusieurs endroits du monde. Londres, l'île d'Anafi et Paris. Somme toute, on y retrouve surtout un aspect cérébral basé sur la recherche et la documentation, ainsi qu'une étape d'archéologie collective qui n'a rien à voir avec les raids de tombeaux cachés du jeu. En revanche, les personnages correspondent bien aux types souvent rencontrés dans les jeux, des intellectuels comme le professeur aidant Lara dans ses recherches, et les antagonistes qui fonctionnent en groupe et font écho aux Solari de l'île japonaise, visités dans Tomb Raider 2013. Ce que j'ai apprécié chez King, de même que chez Perry, c'est leur maîtrise des points de vue, ce qui est l'un des principaux défis de la novélisation dans le sens où vous façonnez une psychologie à un personnage déjà existant. Perry se met dans la peau d'une Jill ou d'un Chris comme le ferait le joueur, par exemple, en soupçonnant Wesker, le type louche de l'équipe, en ressentant des émotions. La narration lui permet de faire réagir des personnages de l'histoire comme réagirait le joueur, à la fois observateur de son environnement et acteur de la progression. La novélisation reste un projet qu'il faut envisager comme le dérivé d'un univers, et le lectorat de ce type de bouquin cherche quant à lui un prolongement à son expérience de jeu. Un livre qui serait comme un jeu vidéo, ce ne serait pas forcément une histoire interactive ni une fanfiction. N'hésitez pas à télécharger le numéro 9 qui contient un dossier complet sur la novélisation.